Voici la lecture donc de Ésaïe 56 et au verset 1 à 7. Voici ce que l'Éternel dit. Respectez le droit, faites ce qui est juste. La libération que j'apporte est sur le point d'arriver. Vous allez découvrir que je veux vous sauver. Il est heureux, celui qui fait ce que je dis, qui s'y tient solidement. Il est heureux, celui qui respecte fidèlement le Shabbat, qui évite toute action mauvaise. L'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne doit pas penser « L'Éternel va sûrement m'exclure de son peuple. » L'eunuque ne doit pas se dire « Je ne suis qu'un arbre sec. » En effet, voici ce que l'Éternel affirme. Certains eunuques respectent mes Shabbats. Ils choisissent de faire ce qui me plaît et s'attachent à mon alliance. Eh bien, à l'intérieur des murs de mon temple, je leur dresserai une pierre pour y graver leur nom. Cela aura plus de valeur pour eux que des fils et des filles. Le nom que je leur donnerai restera pour toujours, il ne sera jamais effacé. Certains étrangers sont attachés à l'Éternel. Ils l'honorent, ils l'aiment et ils sont ses serviteurs. De cela, l'Éternel dit, tous ceux qui respectent fidèlement le Shabbat, qui s'attachent à mon alliance, je les ferai venir sur ma montagne sainte, je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accepterai les sacrifices et les dons qu'ils m'offrent sur l'autel.
Éphésiens 2, chapitre 19 à 22, en langue bassa, nous lisons. Johnny John, ni tehabe bakin, ni biyoyo. Diniye, tiris bon bangem kong, long yara ni bapubhara. Bourbali ha, li nyamba yara. Ningongangi hiku, ni baoma, ni baporol. Munyen Christo Yesu nyemera, aye ngorlikas. Ningimdabi yosona, maongme, maso bana inuye. Make yara ni bisu, lete mayilba tempel pubhara. Laki mayeri ningwer, inye ninye, yarbe ningonga long, ikerembo, ibali libiyene binyambe. Parole du Seigneur.
Nous terminons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu, Poulou, Achamni, Faro, Poulou. On va quitter ce qu'il y a dans le Ari, ni pianatra irakambe fulla. Dena kan Galili wany amin'ny tendrombohitra an'Jesosy aleany ary no nahita azy izy dia niakohaka fa ny sasany nianana ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy tia-tany koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrona izay rehetra nandidiko anareo ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ray masina o manomasina ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana.
Frères et sœurs, comme nous ne sommes pas encore au jour de la Pentecôte, je vais lire en français donc les deux textes qui ont été lus en bassa et en malgache pour que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde. sauf si, je veux dire, si tout le monde sait de quoi il s'agit quand on dit Éphésiens 2, 17, 22 ou Matthieu 28, 16, 22. Mais bon, je vais quand même le lire. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, nous prenons à « Par conséquent, vous, les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, Jésus le Christ lui-même. » Voilà, c'est le cœur du message de ce passage biblique. Et dans l'évangile de Matthieu, mais là je pense que tout le monde sait davantage ce dont il s'agit, c'est le moment où, après la résurrection, les 11 disciples se rendent en Galilée sur la colline que Jésus leur a indiquée, et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé, et sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En écho à ces promesses, à ces paroles fortes, nous chantons les trois strophes du cantique « Venez au Sauveur qui vous aime ».
Frères et sœurs, deux grandes questions sont posées à travers nos trois lectures de ce jour. Que sont les humains devant Dieu et les uns vis-à-vis des autres, compte tenu de leur diversité et de toutes leurs différences à travers l'espace, le temps, les langues, les cultures? Et puis, deuxième question, quelles sont notre mission et notre responsabilité de chrétien. Permettez-moi de commencer en évoquant le psaume 8 que nous avons entendu tout à l'heure. Cette question tellement fondamentale qui est posée dans le psaume 8, qu'est-ce donc que l'homme, que l'être humain, pour que tu t'en soucies, qu'est-ce que le petit humain, pour que tu prennes soin de lui? Je ne vais pas partir dans une définition de l'être humain. L'être humain peut être décrit de mille manières et de plusieurs points de vue, à des tas de niveaux, mais il échappe à toute définition. Et nous savons qu'aujourd'hui, cette question est devenue cruciale. À notre époque, on parle quelquefois de post-humanisme. De notre point de vue de croyant, l'être humain est créature et enfant de Dieu, imparfait, mais appelé à la sainteté, pécheur et pardonné, égoïste, mais appelé au don de lui-même. Pour que cet être humain vive en ce monde de génération en génération, pour qu'il apprenne à choisir la vie et non la mort, comme il est dit dans le Deutéronome, choisis la vie et ne choisis pas la mort, Dieu a choisi lui-même de ne pas rester enfermé au ciel. Il aurait pu passer du bon temps pendant toute son éternité, tranquille, tout seul là-haut. Mais non, il a choisi de se révéler. Il a décidé de se révéler dans le temps et dans l'histoire humaine. Il a décidé de se révéler dans le cadre d'une relation, l'alliance. Il a renoncé à sa propre autosuffisance ou à sa propre toute-puissance pour laisser place à une altérité, à un autre, sa créature, l'être humain. Alliance avec Noé, alliance avec Abraham et ses descendants, puis alliance avec Moïse et le peuple hébreu qui s'est concrétisée par la libération d'Égypte, qui a été fêté il n'y a pas très longtemps lors de la fête de Pessah chez les Juifs, en même temps exactement cette année que nous fêtions la Pâque chrétienne, donc par la libération d'Égypte et le don de la Torah. Alors, pourquoi un peuple particulier? Pourquoi le peuple hébreu? Il y a un récit, une histoire, ce qu'on appelle un midrash dans la tradition juive, qui raconte que quand Dieu a voulu donner sa loi aux humains pour leur enseigner justement le chemin de la vie et non de la mort, il a fait le tour de tous les peuples puissants de la région et de l'époque, mais personne n'en a voulu. Ils avaient autre chose à faire, ils avaient des tas d'occupations plus intéressantes, et surtout ils avaient aussi des dieux et des idoles qui, ma foi, leur étaient très profitables. Seul le peuple hébreu, ce petit peuple, raconte le Midrash, qui avait déjà été bien éprouvé par l'histoire, s'est dit que c'était peut-être pas une mauvaise affaire finalement et a accepté l'alliance et la loi qui allait avec. Mais en même temps, nous savons que cette alliance, de même que les 10 paroles, ce qu'on appelle aussi les 10 commandements, ont une portée universelle. Car dès le commencement de l'histoire, Dieu avait bien dit à Abraham qu'il serait bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et Israël a reçu la vocation d'être lumière pour les nations. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est bien cette perspective universelle que nous avons reçue chez le prophète Ésaïe. Que personne ne se sente rejeté, exclu par le Seigneur, car tous sont invités. Et le rêve de Dieu, ce rêve magnifique, c'est qu'un jour, tous les peuples s'assemblent sur sa montagne sainte et que sa maison soit appelée, reconnue, maison de prière pour toutes les nations. Et comme exemple de personne qui pourrait se sentir exclue, parce que dans la Bible, on est concret, il n'y a pas juste des principes qui sont énoncés, mais il y a des choses concrètes, Ésaïe prend l'étranger et il prend l'eunuque. Alors, l'étranger dans la loi d'Israël fait partie de la catégorie de ceux que l'on considère comme les pauvres. avec l'orphelin et la veuve. Très souvent, on les met ensemble tous les trois, l'orphelin, la veuve et l'étranger. Ce sont ceux qui sont sans pouvoir. Mais justement, pour cette raison, Dieu prend particulièrement soin d'eux et demande que le peuple en fasse autant. Il faut prendre soin du pauvre, il faut prendre soin de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, ou de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. L'étranger, la veuve et l'orphelin doivent avoir leur place au sein de l'Assemblée, avant qu'on attende cet heureux temps de la réunion de tous les peuples sur la montagne sainte de l'Éternel. L'autre exemple est plus délicat. L'autre exemple, c'est celui de l'eunuque, qui est donc privé de ses capacités sexuelles et reproductives. Là, on touche un sujet tabou à travers toutes les époques. Or, dans la loi du Deutéronome, justement, l'eunuque ne peut faire partie du peuple. Et voici que, dans la grande vision d'Ésaïe, au contraire, l'eunuque lui-même a sa place dans le peuple de Dieu. Comme des fils et des filles, l'étranger et l'eunuque feront partie de l'assemblée, à condition, signe de respect aussi, à condition, là ils sont intégrés à tout le peuple, à condition que, comme tous, ils s'intègrent dans le respect du droit et de la justice, dans le refus du mal et dans l'observance du Shabbat. Tous ont leur place. Frères et sœurs, nous nous voyons confirmés par cette magnifique parole prophétique que nous sommes tous enfants de Dieu, qui que nous soyons, d'où que nous venions, quelles que soient nos personnalités, quelles que soient nos capacités, quelles que soient nos limites, quelles que soient nos spécificités, nous sommes tous enfants de Dieu, quels que soient les événements qui nous ont frappés lors de nos existences, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous invités à entrer dans l'Alliance. Nous sommes tous différents, chacun de nous est singulier. Chaque peuple a sa culture, son histoire, ses lieux, sa mémoire. Dieu ne nie ni ne détruit la diversité de sa création et de ses créatures. Au contraire, il accueille cette diversité. Il appelle tous ses enfants depuis leur lieu de dispersion pour les réunir dans son amour de Père. En ce moment, je suis plongée dans la lecture d'Amin Maalouf. Je pense que certains d'entre vous ont dû lire aussi des ouvrages d'Amin Maalouf, qui est extraordinaire autant dans ses romans que dans ses essais. Le dernier est également passionnant, Le naufrage des civilisations. En effet, le titre est un peu terrible, mais il faut lire le livre parce qu'il ouvre aussi des perspectives. Et Amin Maalouf est très travaillé justement par cette question de la coordination, si vous voulez, entre l'universalité et la diversité. Et alors là, je cite, mais un peu de mémoire, une citation, parce que j'ai eu du mal à la retrouver sur mon Kindle, où il dit « S'il y a diversité de civilisation du point de vue des langues et des cultures, il n'y a qu'une civilisation du point de vue des valeurs de justice, d'amour et de miséricorde. » Et on peut tourner ça dans l'autre sens. S'il n'y a qu'une civilisation du point de vue des valeurs de justice entre les humains, d'amour, de partage et de miséricorde, il y a diversité de civilisation du point de vue des langues et des cultures. Et pour Amin Maalouf, il est essentiel justement de reconnaître la spécificité de ces langues et de ces cultures, de les accueillir, de leur reconnaître toute leur richesse, leur dignité, de reconnaître ce qu'elles peuvent nous apporter. Frères et sœurs, nous-mêmes, nous sommes chrétiens et c'est en Jésus-Christ que nous avons appris et que nous avons réalisé que cette invitation à entrer dans l'Alliance, à entrer dans la famille, s'adressait à nous. Car lui, juif, fils de l'Alliance et fils de Dieu, est venu sur terre pour nous enseigner ceci, cela. Il est venu pour nous donner une identité nouvelle en plus de tout ce qui fait par ailleurs notre identité. Il nous a donné, et il nous donne, puisqu'il est vivant, il nous donne cette identité spirituelle de fils et filles de Dieu, cette identité spirituelle de co-héritier, concitoyen des saints, comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, le texte que nous avons entendu tout à l'heure, co-héritier, concitoyen des saints, nous entrons dans l'Alliance. Alors, ça ne signifie pas que nous cessons d'être également héritiers d'une histoire, porteurs des identités que nous ont léguées nos parents, nos ancêtres, nos peuples respectifs, marqués par une culture, une mémoire, des lieux, des rites. Tout cela, c'est notre richesse. Nous sommes tous là, mais toutes ces identités sont traversées par l'identité spirituelle que nous a donnée, que nous donne Jésus-Christ. C'est ce que nous avons entendu et ce que nous entendons dans ce texte bien connu, dans ce verset bien connu de l'Épître aux Galates, hein, où dit « Juifs et Grecs, femmes et hommes, esclaves et affranchis, tous sont un, tous sont unis dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Alors, la force de cette identité commune, de cette identité que nous partageons tous, c'est de nous faire nous reconnaître les uns les autres comme frères et sœurs. Nous pouvons tourner nos visages les uns vers les autres. Nous sommes frères et sœurs. Nous pouvons nous regarder les uns les autres et percevoir dans nos yeux mutuels respectifs une flamme particulière, la flamme de tendresse et de joie qui nous vient de la connaissance de l'Évangile du Christ et du fait que cette joie, elle est pour nous, elle est à partager entre nous. Et nous pouvons nous regarder les uns les autres en disant « Oui, nous avons tous la même flamme de joie de l'Évangile du Christ. » Et alors, nous pouvons, nous devons nous émerveiller de cette tendresse et de cette joie qui se sont multipliés dans la diversité des langues et des cultures. Ce matin, nous en avons eu un exemple, puisque nous avons eu l'épître en bassa et l'évangile en malgache. Et comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, mais ce n'est pas grave, je suis pasteur au DEFAP, au service protestant de mission, et dans la bibliothèque et les archives du DEFAP, que vous êtes tous invités à venir visiter quand vous le voudrez, hein, parce que c'est à vous, tout ça. On peut voir des Bibles en des langues très nombreuses, dont certaines assez anciennes d'ailleurs. Et comme nous avons invité les jeunes de nos églises à venir avec leurs pasteurs ou leurs animateurs jeunesse ou leurs catéchètes, nous les avons invités à venir visiter et rencontrer la mission ODEFA, certains d'entre eux sont absolument émerveillés quand ils arrivent au fond des archives ou dans certains rayons de la bibliothèque où ils découvrent en effet des Bibles dans des langues très, très diverses et très nombreuses. Frères et sœurs, oui, nous sommes tous co-héritiers, concitoyens des saints, disciples du Christ ensemble. Et comme tels, nous avons des devoirs et des responsabilités. Des devoirs et des responsabilités. Ses devoirs et ses responsabilités, Jésus les a confiés à ses disciples après sa résurrection. Il les a confiés à tous, vous l'avez entendu, il les a confiés à ceux qui l'adorèrent tout de suite, qui l'adoraient, là sur la montagne, mais aussi à ceux dont il est dit dans l'Évangile qu'ils avaient des doutes. Ça c'est bien, je trouve, qu'il y a ceux qui sont brûlants, il y a ceux qui se posent des questions, et on est tous la même humanité. C'est important, parce qu'on peut se reconnaître chez les uns ou chez les autres, et quelquefois chez les uns, et quelquefois chez les autres. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ses devoirs et ses responsabilités qu'il a confiées à ses disciples sont aussi les nôtres. Car nous sommes également disciples, à la suite des disciples, de génération en génération. Pas simplement par le souvenir, mais parce que Jésus a annoncé, et c'est ça qui est fort quand même dans cet au revoir d'une certaine façon et cet envoi, qu'il serait présent tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas si on réalise toujours ça, cette présence. la présence du Christ dans nos vies. Alors, tout seul, ce n'est pas facile, en fait, moi, je trouve. Heureusement que Jésus a dit que quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu, et nous pouvons tous en faire l'expérience. Si nous nous réunissons à deux ou trois ou quatre ou plus en son nom, nous sentons qu'il est présent. Enfin, à condition que nous lui fassions un peu de place. À condition, par exemple, que nous ne commencions pas à entrer dans des conflits qui le font fuir. La présence. Nous ne pouvons pas rester insensibles à cette promesse et à cette présence. Mystérieuse, parce qu'elle est invisible, évidemment. Or, cette présence de Jésus nous oblige, en même temps qu'elle nous aide, à réaliser ce qu'il a demandé. Aller et faire des disciples parmi les nations, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et transmettre ce qu'il a enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors d'abord, qu'est-ce que cela ne veut pas dire, de mon point de vue ? Mais je ne suis pas la seule. Ça ne veut pas dire du tout que nous devions enrôler la terre entière sous notre bannière pour faire de tous les humains des chrétiens selon notre vision et nos critères à nous. Nous ne sommes pas chargés d'enrégimenter la planète. Nous ne sommes pas chargés de mener une guerre sainte, fût-elle pacifique. Nous n'avons pas une mission d'enrôlement, nous avons une mission de témoignage. Revenons toujours à cette vision d'Ésaïe. Dieu invite tous les peuples, quels qu'ils soient, à se réunir sur la montagne sainte, mais dans leur diversité. Alors, que nous demande Jésus ? De le faire connaître. Ça, oui. Urbi et orbi. De le faire connaître. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas de convertir des gens de force, ce n'est pas les enrôler, les enrégimenter. Mais c'est leur faire connaître le Christ à travers l'étude des Écritures saintes, mais aussi de faire connaître le Christ à travers les transformations qu'il a accomplies et qu'il accomplit en nous-mêmes. Si nous sommes des chrétiens grincheux, rancuniers, aigris et pas contents, nous aurons beau enseigner, proclamer, etc., ça deviendra du faux témoignage, du contre-témoignage. Donc déjà, nous devons nous laisser transformer. Alors, pas devenir des saints, moi je ne suis pas une sainte, je suis quelqu'un de très imparfait, je peux me mettre en colère et être rancunière et tout, comme vous, comme tout le monde. Mais il faut savoir. Nous sommes des humains, nous sommes imparfaits, nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais justement, nous sommes pardonnés. C'est notre joie, c'est la joie de l'Évangile en nous qui peut témoigner pour le Christ, en même temps que l'enseignement que nous devons partager généreusement. Car il s'agit aussi d'une culture à partager, à mettre à disposition. La connaissance de la Bible, la connaissance des Évangiles, la connaissance aussi des théologiens, de tous ceux qui ont interprété. Oui, nous pouvons faire connaître par les transformations qu'il a accomplies et qu'il accomplit en nous, par son amour et par sa grâce, par sa justice et sa miséricorde. Enseignement en parole, en acte, à travers des comportements qui manifestent, qui essaient de manifester la justice et la bonté de Dieu. Quant au baptême, c'est pareil. On ne va pas aller baptiser des foules entières, il ne s'agit pas de ça. Même s'il peut y avoir des baptêmes communautaires, évidemment. Le baptême, signe visible de cette grâce invisible, proposée à tous et non imposée. Car on ne baptise pas des nations, on ne baptise pas des entités abstraites. Jésus a toujours parlé à l'un et à l'autre de manière personnelle. On baptise des personnes qui se sentent appelées à suivre le chemin du Christ. Aujourd'hui, comme hier, frères et sœurs, il y a du pain sur la planche. Alors, pour des tas de raisons. On va dire, l'Europe est déchristianisée, peut-être. Il y a des bouquins passionnants sur le sujet. Mais de toute manière, la tâche d'évangélisation, elle est toujours à recommencer. Même dans une société très christianisée, la tâche d'évangélisation, elle est toujours à recommencer. Elle n'est jamais finie et c'est normal, car il s'agit d'une parole de vie qui s'adresse à chaque nouvelle vie. Alors la vie, on sait que justement, c'est vivant, ça bouge. C'est pas « bang » une fois pour toutes. De la même manière que les enfants apprennent à lire, il leur faut également apprendre à connaître le Christ et la Bible. Ce n'est pas une science infuse dans laquelle on tomberait dedans quand on était petit ou il y a 5 générations. Non. Et comme nous sommes tous des enfants aux yeux de Dieu, à tout âge on peut apprendre. On peut recommencer. Et c'est formidable. C'est un brevet de jeunesse éternelle. Notre mission et notre responsabilité de chrétien, c'est de partager le trésor de l'Évangile. C'est de proclamer et de montrer que la vie sur terre peut être juste, qu'elle peut être bonne et généreuse si l'on se fie à l'amour et aux promesses de Dieu. Et vraiment, il faut s'accrocher parce que quelquefois, c'est compliqué la vie. Et on sait qu'en ce moment, le monde, nos sociétés, la vitesse à laquelle il y a des transformations à tous les niveaux, tout cela, ça nous affole tous. Donc il faut trouver le rocher, il faut s'accrocher à Dieu, s'accrocher au Christ. C'est notre mission et notre responsabilité parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Et je voudrais finir par cette prière d'un anonyme du XIVe siècle. Je n'ai pas été vérifiée, mais je l'ai recueillie comme telle dans un recueil de prières. Christ, tu n'as pas d'oreilles. Aujourd'hui, tu n'as que nos oreilles pour entendre le cri de nos frères. Christ, tu n'as pas Dieu. Tu n'as que nos yeux aujourd'hui pour faire rayonner ta présence dans nos vies. Christ, tu n'as pas de lèvres. Aujourd'hui, tu n'as que nos lèvres pour parler de toi aux êtres humains d'aujourd'hui. Christ, tu n'as pas de pieds, tu n'as que nos pieds pour accompagner les humains sur ton chemin. Christ, tu n'as pas d'aide, tu n'as que notre aide pour conduire les humains de ton côté, à ton côté. Nous sommes aujourd'hui la Bible que les gens peuvent encore lire. Nous sommes le message de Dieu proféré en parole et en acte. Alors, frères et sœurs, prenons ensemble cette responsabilité, si vous voulez bien, avec l'aide de Dieu, du Christ, avec la force de l'Esprit. Amen.